La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Bonjour à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Daniel 8, versets 13 à 17. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait : pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur ? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ? Et il me dit : 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit : Gabriel, explique-lui la vision. Il vint à l'heure près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit : Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Amen.
Ce matin, j'aurai besoin de toute votre attention. Certains messages se comprennent aisément, d'autres moins. Et aujourd'hui, justement, j'aimerais vous conduire dans une réflexion qui vous aidera à vous ancrer dans la foi adventiste, si telle est la vôtre, ou alors à en découvrir un aspect. L'Église adventiste est née de l'attente du retour du Christ dans la deuxième moitié, ou la première moitié du XIXe siècle. La prophétie qu'Emeline nous a lue a été étudiée avec soin par plusieurs personnes qui sont parvenues à la conclusion que quelque chose de significatif allait se produire au terme de ces 2300 soirs et matins, qui correspondent en réalité à 2300 années. La plupart étaient convaincus que le Christ reviendrait. Au terme donc de ces 2300 années, autrement dit en 1844. Or, il est évident qu'il n'est pas revenu. Ce fut une grande déception. Mais certains ont persévéré en disant « La prophétie est quand même là, la date est certaine, nous avons le point de départ, nous avons le point d'arrivée. » Mais les choses ne se sont pas déroulées comme nous l'avions prévu. Continuons d'étudier la Bible et nous allons trouver la solution à nos interrogations. Et on va découvrir que finalement, au terme des 2300 soirs et matins, c'est le sanctuaire céleste qui a été purifié. Autrement dit, selon les termes que nous utilisons classiquement, le Christ, en tant que grand prêtre ou souverain sacrificateur, est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste ou du temple dans le ciel. Cela donc se serait produit en 1844. Et depuis, il œuvre en vue de la purification des péchés de son peuple. Et il prépare son retour. Sauf qu'aujourd'hui, 1844, ça paraît loin. Et aujourd'hui, on pourrait se dire, mais Jésus est-il toujours dans le lieu très saint ? Exerce-t-il toujours une œuvre sacerdotale, autrement dit de grand prêtre, en faveur de son peuple ? De 1844 à nos jours, il y a quand même quelques décennies. Cela peut nous sembler long, beaucoup trop long. Et puis cette notion de purification du sanctuaire paraît à beaucoup aussi très abstraite. Ça se passe dans le ciel, or nous ne voyons pas ce qui se passe dans le ciel. Nous ne savons même pas à quoi ressemble le ciel, donc le lieu où Dieu réside. Et nous nous demandons ce que Jésus peut bien faire concrètement dans le ciel, faut-il préciser, dans le lieu très saint du sanctuaire du ciel. C'est vrai que nous avons les visions données à Daniel, notamment le chapitre 7. Nous avons les visions données à Jean, l'Apocalypse, qui nous aide à définir l'œuvre du Christ. Et les raisons, peut-être aussi, du sentiment que nous avons aujourd'hui que ça fait longtemps que cette œuvre a commencé. Pourquoi n'est-elle pas terminée? Et alors on est tenté de remettre ça en doute, se disant, mais y a-t-il vraiment eu quelque chose en 1844? Étant donné que nos yeux n'ont rien vu, alors on va vous dire, mais il y a les yeux de la foi. Ok. Mais ça reste difficile malgré tout d'imaginer ce qui se passe au ciel et de comprendre quel est le lien entre ce qui se passe au ciel et ce qui se passe sur la terre. D'où cette question, certes provocatrice pour beaucoup d'entre nous, faut-il encore croire à la purification du sanctuaire ? Prenons les choses par un autre bout. À la fin du livre du prophète Daniel, donc c'est un livre qui se trouve dans l'Ancien Testament, au chapitre 12 et verset 4, voici ce que nous lisons. « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » C'est intéressant. Donc, il est annoncé à Daniel, qui vivait dans le VIe siècle avant Jésus-Christ, qu'un jour, ce livre sera ouvert, lu et compris. La connaissance augmentera. Vous avez le verset 10 de ce même chapitre qui complète cette pensée. « Va, Daniel !» C'est un homme vêtu de lin qui dit cela. « Car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Donc c'est dit deux fois, c'est important. Ces paroles doivent rester scellées, les paroles là que tu as consignées dans ton livre, seront pour la plupart incomprises jusqu'à un moment donné de l'histoire. Que l'homme vêtu de lin appelle le temps de la fin. On nous dit « plusieurs seront purifiés, blanchis, éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. » Le méchant, c'est celui qui refuse d'adorer le Créateur et de reconnaître son autorité, son amour et sa justice. « Aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Il faut aussi comprendre par là que ceux qui comprendront au terme de cette période de secret, eh bien, seront purifiés, seront préparés pour un temps particulier. Alors, ces paroles, je l'ai déjà dit, sont prononcées par un homme vêtu de lin qui, au verset 7, qui jura. Donc c'est très important, il le dit deux fois et en plus, et il jure avec les deux mains levées. Il jure que c'est vrai. Par celui qui vit éternellement, que ce sera, il nous dit à quelle période cela arrivera. Dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Les fameux trois temps et demi. Un temps, des temps qu'il faut comprendre comme étant deux temps et un demi-temps. Un temps, c'est une année. Une année comprend 360 jours. Parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on comptait les mois. On en faisait des mois de 30 jours. Ce qui correspond donc à 1260 jours. 3 ans et demi, 1260 jours, ok, qui sont en réalité 1260 années. Puisqu'on va jusqu'au temps de la fin, il faut s'attendre à des longues durées Pas 1260 jours littéraux, mais des jours, années, puisqu'on est ici dans un contexte prophétique. Et on le sait, la Bible nous laisse deux choix. Ou ce sont des jours littéraux, mais alors là, la prophétie est totalement non pertinente, ou alors ce sont des jours, années, hein, comme Dieu a pu nous l'indiquer dans d'autres passages que je ne vais pas lire maintenant. Et à ce moment-là, c'est une longue période qui nous conduit au-delà de la Révolution française. Je n'ai pas le temps de vous faire la démonstration. Mais c'est effectivement après la Révolution française que de nombreux experts de la Bible, biblistes, pasteurs, théologiens, vont découvrir le sens de cette prophétie. Et parmi eux, un certain William Miller, précurseur de l'adventisme, nous le savons, qui est parvenu à la conclusion qu'il allait se passer quelque chose de très important en 1844, le retour de Jésus. Et il a su, bien sûr, convaincre des dizaines de milliers de personnes. On estime à environ 100 000 personnes le nombre de ses adeptes convaincus. Voici ce fameux texte, 2300 soirs et matins. Donc selon le compute biblique, ça fait 2300 jours. Dans la Genèse, vous lisez, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Il y a eu un soir et un matin, ce fut le deuxième jour. Donc soir et matin évoque ici autant de jours. Ça fait donc 2300. Et en prenant pour point de départ un décret qui a autorisé la reconstruction de Jérusalem, et qu'on trouve d'ailleurs dans le livre d'Esdras au chapitre 7, et en prenant ce point de départ, qui est un point de départ tout à fait fiable et confirmé par d'autres prophéties et d'autres textes, eh bien on arrive effectivement en l'an 1844. On retrouve ce fameux personnage que j'ai présenté au début, au chapitre 10 de l'Apocalypse, sous les traits d'un ange puissant, dont le visage était comme le soleil. Apocalypse 10, verset 1. Et qui tenait dans sa main un petit livre ouvert. Tiens, c'est intéressant. On retrouve le même ange, le même messager, au terme de cette période de 3 ans et demi, qui sont 3 ans et demi, comprenez des années prophétiques, qui sont donc littéralement 1260 jours. On retrouve dans l'Apocalypse, au terme de cette période, ce même ange. Et cette fois-ci, il a dans sa main le livre ouvert. Et à l'instar de l'ange qu'a vu Daniel, il jura lui aussi, par celui qui vit au siècle des siècles, qu'il n'y aurait plus de délai. Et ce, en levant la main droite. Alors pourquoi il lève que la main droite et il ne lève pas les deux mains? Parce que dans la main gauche, il a le livre ouvert. Mais il a exactement la même position. Donc il nous fait comprendre que ça y est, maintenant le livre est ouvert. Ok? Au début, il a annoncé que le livre sera scellé pendant une longue période, qui correspond à 3 ans et demi. Et au terme de cette longue période, eh bien, on le retrouve dans l'Apocalypse. Cette fois-ci, il jure à nouveau par celui qui vit éternellement, au siècle des siècles. Mais il ne lève qu'une seule main, parce que dans l'autre main, il a le livre de Daniel, ouvert, donc, enfin, accessible, compréhensible à l'intelligence humaine, selon la volonté de Dieu. Alors, vous avez l'image suivante, qui est une fresque, mais très rapide, condensé donc de deux prophéties qu'on trouve dans le livre de Daniel. Et ici, on se focalise sur la deuxième, qui est en vert. En haut, vous avez la prophétie des 70 semaines, très intéressante. Elle conduit à Jésus-Christ, donc à la première venue de Jésus-Christ. Et vous avez la deuxième qui pointe vers la seconde venue de Jésus-Christ. Voilà. Donc, et le point de départ est le même pour les deux. On est d'accord? C'est en octobre 457 avant Jésus-Christ. Vous lisez ça sur la gauche. Et cela nous conduit jusqu'en octobre 1844, hein, donc en faisant un calcul élémentaire. N'oublions pas qu'il n'y a pas d'an zéro dans notre calendrier, d'où le plus 1 dans la parenthèse en bas à droite. Voilà. C'est très simple. Donc, on ne s'est pas trompé. On a compris que 1844 était une date indiquée par le messager de Dieu au prophète. Et qu'au-delà de cette date, il n'y aurait plus de délai. Comme le dit l'ange puissant, lumineux comme le soleil d'Apocalypse 10. Il dit clairement qu'il n'y aura plus de délai. Au-delà donc de cette date, pas d'autre date. Il faudra attendre. Et c'est pour ça que nous attendons depuis si longtemps, depuis ce qui nous semble en tout cas être une longue période. Maintenant, je reviens sur un verset que nous avons déjà lu ensemble, c'est celui-là. Avez-vous noté ce que déclare l'homme vêtu de lin concernant ceux qui auront de l'intelligence et qui comprendront la prophétie? Ceux qui auront de l'intelligence et qui comprendront de la prophétie. Autrement dit, il faut faire un effort. Vous avez remarqué, ce n'est pas facile, je vous l'ai annoncé dès le départ. Là, peut-être qu'il faut ouvrir son carnet, prendre quelques notes, réfléchir, revenir sur le texte, le lire soi-même, le comparer avec un autre texte. C'est comme ça qu'on est arrivé à déceler le livre de Daniel. C'est par une certaine méthode de lecture de la Bible, rigoureuse, méticuleuse, approfondie. Si vous restez un lecteur superficiel, cela vous paraîtra bien confus. Mais plus vous rapprochez du texte, plus vous l'étudiez et mieux vous le comprenez, plus cela vous paraît clair. Vous dites, waouh, il y a là des correspondances évidentes. C'est l'ange qui revient au terme des 3 ans et demi, après les 1260 jours qui se terminent en 1798, je ne vais pas vous démontrer maintenant, mais c'est là qu'il revient pour dire, attention, la prophétie va se réaliser et au-delà, il n'y aura plus d'autres délais. Ok. Et dans Apocalypse 10, il nous a même dit que ce sera une expérience amère, difficile pour ceux qui vont comprendre la prophétie, mais qui vont faire une mauvaise application de ce que la prophétie désigne comme étant la purification du sanctuaire. Ils vont se tromper. Ils vont croire que c'est la terre qui devait être purifiée, alors que c'est autre chose qui devait être purifiée avant le retour de Jésus. Et donc, ils sont allés un peu trop vite dans leurs explications. Mais regardez ce verset, relisez-le. Daniel, va. D'ailleurs, lui-même ne comprendra pas tout. Donc, si vous ne comprenez pas tout, restez tranquille, zen. Daniel n'a pas tout compris non plus, lui-même. On lui dit, ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés à ce moment-là, au temps de la fin, blanchis et éprouvés. Et je surligne, je mets en gras, plusieurs seront purifiés. Tiens, ça nous renvoie à la purification du sanctuaire. Là, je lis que l'accomplissement de cette prophétie indique une purification du peuple de Dieu. Alors quand on lit plusieurs, image suivante, quand on lit plusieurs, il faut savoir que ce n'est pas juste quelques-uns. C'est beaucoup, selon les traductions en français courant, Bible en français courant traduit par « beaucoup seront purifiés ». Bible du Semeur, beaucoup. Parole de vie, beaucoup. Nouvelle Bible Second, une multitude. Tout un peuple. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport justement entre la purification du sanctuaire et la purification du peuple de Dieu? Au terme donc des 3 ans et demi, lorsqu'on a compris la prophétie, lorsqu'on a annoncé sa réalisation, et qu'on s'est attendu à un changement radical dans l'ordre des choses. Alors ce texte nous dit, c'est un texte du Nouveau Testament, nous sommes le temple du Dieu vivant. Bien sûr, c'est une lecture symbolique, c'est-à-dire que le peuple de Dieu est un peuple saint, et il peut être comparé à un sanctuaire, parce que Dieu désire résider au milieu de nous. Il l'a démontré par Jésus-Christ, Jésus-Christ qui portait aussi le nom d'Emmanuel, signifiant Dieu parmi nous, Dieu dans son sanctuaire. Vous avez ce texte qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, qui complète celui que vous avez à l'écran, À l'écran, c'est 2 Corinthiens 6, 16, et dans un autre texte, 1 Corinthiens 3, 16, c'est « Vous êtes le temple de Dieu ». Donc, autrement dit, vous, son peuple, vous, son Église, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Ah, qui est intéressant, voilà une piste très intéressante. Ainsi, la purification du sanctuaire, que nous comprenons classiquement comme étant le sanctuaire du ciel, donc invisible, hors de notre portée, un lieu qu'il est difficile, sinon impossible de décrire, eh bien, qu'on appelle le temple de Dieu dans le ciel, à cette purification-là correspond une purification du peuple de Dieu sur la terre. Et cette purification est opérée par l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité, à l'aide d'un message prophétique qui doit parvenir à beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Parce que l'ange puissant, qui brille comme le soleil d'Apocalypse 10, va dire à la fin, au prophète, après qu'il a été déçu par une expérience prophétique malheureuse, autrement dit, il a mangé le livre et ce livre, il ne l'a pas digéré, ça lui a fait mal au ventre, et après quoi, finalement, il a compris qu'il fallait qu'il persévère et qu'il continue de l'étudier et surtout de partager le message qu'il contient. Quel est ce message justement qui doit être partagé avec beaucoup, cette vérité qui doit être partagée avec beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois, dont il est question par-delà la date de 1844, vous l'avez bien compris, c'est la date de 1844 qui est suggérée ici. C'est-à-dire que vous serez déçus parce que vous vous attendiez à un événement qui ne s'est jamais produit. Donc vous serez déçus. Mais vous serez consolés et vous aurez à annoncer des choses très importantes au monde. Et quel est précisément ce message qui doit être annoncé par-delà la date de 1844 ? Eh bien, c'est le message que l'on appelle le message des trois anges d'Apocalypse 14, en particulier le message du premier ange, voilà, à l'écran, lequel doit parvenir aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. Volontairement, je reprends cette expression, parce qu'on la trouve de part et d'autre. Apocalypse 10, Apocalypse 14. Donc, ce qui montre bien que ce qui doit être prêché dans Apocalypse 10 après la déception, liée à l'incompréhension de la prophétie, eh bien, c'est ce message-là. C'est très clair, quand vous lisez le texte attentivement, vous avez des effets miroirs, vous ne vous trompez pas. Et voilà donc ce texte, alors juste avant on le relit ensemble, qui est un beau texte, juste à la diade avant, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Autrement dit, ce message doit être prêché à tous les habitants de la terre, à partir, selon la volonté de Dieu, de 1844. Pourquoi ? Pour que beaucoup, une multitude, selon la traduction de la Nouvelle Seconde, puissent être purifiés, épurés, blanchis. Autrement dit, pareil pour le retour du Christ. Un nouveau délai, un nouveau temps, oui, est donné, dont on ne connaît pas la fin, pour le peuple de Dieu, pour le monde en général. Ce « craignez Dieu et donnez-lui gloire » se décline en quatre points. « Craignez Dieu », peut-être vous avez du mal à lire. C'est, autrement dit, se soumettre à l'autorité de sa parole, craindre Dieu. Concrètement, c'est se soumettre à son autorité, le respecter, bien sûr, l'aimer. Mais foncièrement, la crainte de Dieu, c'est la reconnaissance de sa grandeur, de sa bonté, de sa suprématie, donc de son autorité. Et quand Dieu parle, il parle. Deuxième point, c'est donner-lui gloire. Autrement dit, révéler qui il est. La gloire de Dieu, c'est son caractère. C'est ce qu'il est. Dieu est foncièrement libre. Libre d'aimer et libre d'exercer la justice. Donner-lui gloire, autrement dit, révéler le caractère de Dieu, son amour et sa justice. Car l'heure de son jugement est venue. Parce qu'il est libre. Libre d'aimer, il exerce la justice envers tous. Et donc, l'heure du jugement est venue. Cela signifierait qu'à partir de 1844, d'une certaine façon, le monde est jugé. C'est donc un préalable à la première et à la seconde résurrection. Parce que vous savez que, au retour du Christ, les morts ressusciteront. Lesquels ? Les morts en Christ. Puis suivra une période dite de 1000 ans, au terme de laquelle les autres ressusciteront. Ceux qui l'ont rejeté, ceux qui l'ont d'une certaine façon crucifié, qui l'ont détesté. Et donc, l'heure du jugement est un préalable, le jugement est un préalable à la seconde, à la première et la seconde résurrection. Et enfin, adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. On parlait d'écologie ce matin, le soin de la planète, le soin aussi de l'autre, mon prochain. Eh bien, c'est une invitation à adorer le Créateur, qui, en tant que Créateur, est aussi législateur. On est d'accord, c'est lui qui a créé les lois. Un texte qui est dans les psaumes dit clairement, Dieu a créé les lois, il ne les modifiera pas. Les lois lui appartiennent. Nous ne faisons qu'utiliser les lois de la nature, de la chimie, de la mécanique, de tout ce que vous voulez. Dieu en est l'auteur. Il a créé ces lois. Et il a créé des lois dans l'ordre physique des choses, mais il a aussi créé des lois dans l'ordre moral. D'où les 10 commandements. C'est un résumé très simple des lois de Dieu dans l'ordre moral. Et en cela, il est maître du sabbat. Donc c'est une invitation à adorer le Dieu créateur, législateur et maître du sabbat. Vous savez que Dieu a créé le monde en 10 paroles. Très très intéressant. Vous allez, si vous êtes un petit peu curieux, vous allez pouvoir prendre un interlinéaire hébreu-français. Vous avez trouvé 10 fois dans la création du monde, le premier récit, Vayomer Adonai. 10 fois, ça veut dire l'Éternel Dieu dit, vous avez un décalogue dès la création du monde. Le décalogue est déjà présent. Ça veut dire que ce sont les lois morales qui soutiennent le monde. Et les lois physiques et les lois morales sont interdépendantes. On n'en sait encore pas assez dans ce domaine. Voilà, l'adoration est posée. L'Église adventiste donc considère aujourd'hui qu'il est de son devoir de prêcher ce message universel. C'est une question de vie ou de mort éternelle. Nous considérons que l'adventisme a précisément été suscité par Dieu pour prêcher le message des 3 anges d'Apocalypse 14 au temps de la fin. Après la Révolution française, qui a tout chamboulé, en tout cas dans le pays et dans le monde de manière générale, et après cette grande déception de 1844. Et à partir de là, il était nécessaire de relire le texte, de le reprendre à nouveau frais pour découvrir ce qu'il cache, et quel est le trésor donc, qui s'y trouve. Et partant donc, le mouvement adventiste repose sur les 5 piliers suivants. On y va ? Alors là, maintenant, ça va entrer. Voilà. Les 5 piliers suivants de l'adventisme, alors on les décline. Premier pilier, c'est la méthode d'interprétation des réformateurs. Celle qu'a utilisée un certain William Miller, comme je disais, précurseur de l'adventisme. Qui a donc établi la date de 1844 et qui en a parlé dans toutes les églises où il était invité à prêcher en son temps, première d'abord moitié du 19e siècle, et puis après on verra deuxième moitié pour ce qui est de la suite. Donc il y a la méthode d'interprétation des réformateurs. En latin, ça se dit « scriptura sui ipsius interpres », ça veut dire « l'écriture est son propre interprète ». Si vous voulez comprendre la Bible, vous devez utiliser la Bible. Pas forcément des manuels de théologie. Donc, chacun peut accéder à la compréhension du texte dans la mesure où il est un lecteur, il est capable donc de lire la Bible attentivement. Premier point. Deuxième point, donc ça c'est le craignez Dieu, c'est-à-dire ayez du respect pour sa parole. Deuxième point, donnez-lui gloire. Eh bien, l'adventisme déclare l'amour et la justice de Dieu face à la responsabilité humaine. Et donc, est à l'aise pour parler de jugement ou de purification du sanctuaire qui s'apparente à un jugement, d'accord ? C'est parce que Dieu est juste et bon qu'il est en mesure de juger le cœur de l'homme. Il est un juste juge, un juge bienveillant, un juge disposé à gracier, un juge qui veut sauver le coupable, c'est clair. Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver le coupable. Donc, un juge qui a choisi un avocat très efficace, pour tous ceux qui le reconnaissent comme étant leur avocat et le choisissent en tant que tel. Vous avez le point suivant. Donc, adorez, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Alors, le jugement est lié aussi à la non-immortalité de l'âme et à la résurrection des corps, je l'ai dit. La Bible est très claire, les morts dorment, ils se sont endormis. Et donc, ils découvriront l'issue de ce jugement à leur résurrection, pas avant. Nous aussi, nous ne savons pas quelle sera l'issue de ce jugement. C'est qu'au moment de la résurrection que nous saurons qui appartiennent à Christ et qui ne lui appartient pas. Reportez-vous aux paroles de Jésus, à ce moment-là, deux personnes seront trouvées dans un champ, l'une sera prise, l'autre laissée. C'est pour montrer que le tri aura été fait avant le retour du Christ, c'est assez logique. Vous avez le point suivant, et adorer celui qui a fait le ciel, la terre et les sources d'eau, donc la création, les adventistes tiennent beaucoup à la création du monde, en 7 jours, et c'est normal, parce qu'on y retrouve le sabbat du 7e jour, et la loi morale, je vous disais, qui est inscrite dans cette création, et qui est nécessaire à sa préservation, notamment la préservation des relations entre Dieu et les hommes, et entre l'homme et son prochain. Donc le grand mouvement adventiste a vu le jour dans la deuxième moitié du 19e siècle. Première moitié, les choses ont été préparées, deuxième moitié, elles se sont révélées, développées. Mais, et c'est là où je vais vous donner ce qui pour moi sont autant d'indices qu'on ne s'est pas trompé de date et que l'Église adventiste a véritablement le message qu'il est nécessaire de prêcher au monde entier. Je dis bien nécessaire pour préparer la seconde venue de Jésus. Dans cette même période, la période de la formation de l'adventisme, de l'établissement de ce mouvement sur ses 5 piliers, alors on va rajouter le 5e, c'est la proclamation du message à tous les habitants de la terre, la mission, hein, qui consiste à apporter ces éléments à toute nation, langue, tribu et peuple. Bon, et bien dans cette même période, diverses philosophies, théories et religions ont pris le contre-pied de l'adventisme afin de discréditer son message et de neutraliser son influence. Donc quoi ? Patience. Toute vérité prêchée par les chrétiens et les adventistes en particulier trouve sa contre-vérité. L'ennemi a donc lancé une contre-offensive pour contrecarrer le plan de Dieu. Contre-offensive de l'ennemi pour contrecarrer le plan de Dieu. Alors là, faisons juste une pause. Est-ce que vous me suivez ? Une date prophétique certifiée, conforme. Une date prophétique certifiée, conforme, 1844, on est déjà dans le temps de la fin. À partir de là, un message doit être prêché en rapport avec cette date et la purification du sanctuaire pour purifier le peuple de Dieu sur la terre et le préparer au retour du Christ. C'est un temps de jugement et, je dirais, le verdict est manifesté au retour du Christ lorsque les justes ressusciteront. D'ailleurs, Jésus a été très clair. Il parle à un moment donné de la récompense qui sera donnée aux gens fidèles, aux serviteurs fidèles, à la résurrection des justes. Donc Jésus savait déjà qu'il y aurait 2 résurrections. Bref, ça à la limite, on n'est pas obligé de le détailler maintenant. Mais voyez ce lien. Et dans cette même période, de la fin du 19e siècle, lorsque l'adventisme prend ses marques, lorsque l'adventisme s'élance dans la carrière, et comprenez, il n'y a pas besoin de faire cocorico, hein. On n'y est pour rien, c'est porté par le souffle de Dieu, c'est porté par la volonté de Dieu que tout cela s'est fait, parce que Dieu a voulu que tout ça soit caché pendant des siècles, pendant même plus de 2 millénaires. Il fallait que tout ça reste caché, donc c'est Dieu qui a bien voulu nous faire comprendre ces choses, à un moment crucial. Alors, quelle est cette contre-offensive de l'ennemi ? Eh bien, elle va toucher les 5 piliers de l'adventisme. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti, première contre-offensive, et là je vais aller assez vite parce que vous avez les moyens de vérifier, vous avez été à l'école, il y a des bacheliers ici qui sont présents, alors je les salue, il y a voilà, des gens qui ont passé des examens dans différentes disciplines, et de manière générale, je pense que vous avez suffisamment de culture générale pour comprendre ces choses, là, maintenant, et voir à quel point ça a influencé la pensée de l'homme moderne, aujourd'hui, face à l'homme biblique. Que nous sommes censés incarner en tant qu'adventistes. Alors, a été contestée dès la fin du 19e siècle la fiabilité et l'autorité du texte biblique par ce qu'on appelle la haute critique. Ok ? La fameuse méthode d'interprétation des réformateurs, l'écriture est son propre interprète. Si tu veux comprendre l'écriture, lis la Bible. Okay. Ça a été attaqué à ce moment-là, à travers une méconnaissance de la crainte de Dieu et de l'autorité de sa parole. Alors voilà une figure de cette époque très connue. Vous pouvez faire vos propres recherches, je n'invente rien. Un certain Julius Wellhausen. Cet homme est-il né? 1844. Ok, j'en fais pas. Voilà, c'est pas dans la Bible. Hein. Julius Wellhausen, bref, il est né en Allemagne. C'est un théologien protestant qui a exercé une influence profonde sur l'étude de l'Ancien Testament. Elle est un des fondateurs de la critique radicale de la Bible et de ce qu'on appelle l'exégèse historico-critique. Il dénonce la prétendue historicité de larges portions de la Bible. Voilà, notamment tout ce qui concerne l'époque des rois. Ses travaux s'appuient sur des méthodes rationnelles de critique des textes de l'Antiquité. Il est l'auteur de plusieurs théories, dont l'hypothèse documentaire, etc., etc. Ok. Vous voyez, première contestation. Votre méthode d'interprétation n'est pas la bonne. C'est une contre-offensive. Deuxième, c'est sur le « craignez Dieu hein ». Thomas dit « non ». Mettez en œuvre votre propre jugement, votre propre raisonnement, et vous arrivez aux bonnes conclusions. C'est une toute autre méthode de lecture de la Bible. Point suivant. Après, on a contesté dans ce même temps, enfin, simultanément, l'amour et la justice de Dieu. Très, très fortement, très puissamment, les vagues se font sentir jusqu'à aujourd'hui. La barque, elle est toujours en train de... Vous voyez, quand il y a des vagues qui arrivent, ça tangue toujours, hein, et il y en a qui tombent. On a contesté l'amour et la justice de Dieu en ce temps-là et la responsabilité de l'homme créé à l'image de Dieu, donc sa liberté. On a méconnu totalement, dans ces milieux-là, hein, de la contestation, la gloire de Dieu. Regardez, les fameux trois maîtres du soupçon. Je ne vais pas détailler, mais c'est très intéressant de voir ont mené les études aujourd'hui de ces trois hommes très influents, trois athées. Les trois ont nié à leur façon la conscience de l'homme. Ils ont redéfini ce qu'est la personne humaine, le sujet. En disant que finalement, l'homme n'est pas vraiment libre. Ils ont contesté, bien sûr, l'existence de Dieu, d'accord, et la liberté de l'homme, forcément. Nietzsche, la fameuse phrase « Dieu est mort », on connaît, et bien d'autres encore qui vont dans ce sens-là. Il a méprisé le christianisme, il a méprisé les chrétiens. Qu'il traitait de gens fous, hein, de dernier des hommes. Mais malheureusement, il est lui-même mort fou, hein, à l'âge de 55 ans. Il faut le savoir, ça. Bon, et ben lui, il a dit, ce sont les instincts qui dominent les choix des hommes. L'homme, il est soumis à ses instincts. Et quand il obéit à ses instincts, il devient un surhomme. Pas évident de comprendre la pensée de Nietzsche, mais en résumé, c'est ça. L'homme doit suivre ses instincts de vie. Point barre. Et il n'a rien à rendre à qui, autant compte à rendre à qui que ce soit. Nietzsche. Marx, lui, c'est la lutte des classes. Ce sont les mouvements sociaux qui font la conscience humaine. Et vous connaissez les évolutions du marxisme. Alors regardez les dates. Nietzsche, il est né en 1844. C'est curieux. Hein. Karl Marx, 1818-1883. Dans cette même période. Sigmund Freud, 1856-1939. Lui, il a été plus loin, il était dans le XXe siècle. Mais voyez, c'est à cette période-là qu'on trouve exactement les contre-vérités que nous prêchons, qui se développent et qui, aujourd'hui, sont toujours admises. Point suivant. Contestation. Alors là, on a contesté la gloire de Dieu. Maintenant, on va contester le jugement. Contestation des enseignements de la Bible et de l'esprit de prophétie par le spiritisme moderne. On va contester le jugement des dieux sur les vivants et les morts qui dorment. Avec une méconnaissance de l'état des morts et de la résurrection corporelle. Image suivante, tout se tient. La naissance du spiritisme moderne dans cette période, dans cette fenêtre-là, fin du XIXe siècle, avec Allan Kardec, un homme bien de chez nous. Si vous pouvez trouver sa tombe au cimetière du Père Lachaise, elle est fleurie. Parce que soi-disant, il répond aux prières, on peut lui parler, bien sûr. Lui, il a voulu établir le spiritisme sur des bases scientifiques. Et il a écrit un fameux livre, qu'on appelle le livre des esprits, qui fait référence dans le monde. Et aujourd'hui, les développements de ce spiritisme se sont Harry Potter, le gentil sorcier, et tout le reste, hein, quand même, tout le reste, mais c'est une des plus grandes figures connues de tous dans les familles. Allan Kardec, regardez les dates, 1804-1869. Comme vous savez que l'Église s'est organisée entre 61 et 63, la nôtre. L'Église adventiste existe officiellement à partir de 1163. C'est toujours dans cette période-là, contre-offensive. Vous avez à côté les deux des trois sœurs Fox. C'est à partir de là que sont apparus ces phénomènes dits de frappement. Esprit, es-tu là? Les frappements dans la maison des sœurs Fox, qui sont des filles de pasteurs. Vous voyez la confusion? Et elles vont entendre ces frappements, elles vont les interpréter. Ça va être très, très fortement médiatisé en ce temps. Vous avez là Léa. Léa n'est pas à l'image, mais Margaret ou Maggie Fox et Kate Fox. Elles ont vécu, les trois, hein, entre 1844, j'ai pris les dates les plus éloignées, et 1893. Même période. Alors que, vous savez, Ellen White reçoit des visions. Ellen White est une des pionnières de l'Église adventiste. Elle reçoit des visions. Et eux aussi ont des révélations de l'au-delà. Curieux, ça. Vous voyez, la même époque. Bon, donc pour eux, on peut communiquer avec les morts. Alors que la parole de Dieu est claire, les morts dorment. Donc, qui sont ces entités avec lesquelles on communique? Eh bien, je vous donne en mille. Les esprits déchus, les anges du mal, évidemment, qu'on appelle encore les démons, qui sont des intelligences perverties par leur révolte contre Dieu. Point suivant. Donc là, on était dans l'heure du jugement est venue. Ben, si, à la mort, l'âme se détache du corps, il n'y a plus de jugement. C'est immédiat. Et on survit, il n'y a plus besoin de jugement. Tous, on est tous immortels, tous éternels, et on ira tous au paradis. C'est pas, vous avez déjà entendu ça sur les ondes, c'est très récent. Et en même temps, c'est un développement de ce qu'on a commencé à enseigner à cette époque. Et puis, vous avez la contestation du surnaturel biblique par la théorie de l'évolution, faut-il le dire, des espèces. Méconnaissance du récit de la création, de la loi morale de Dieu et de l'importance du sabbat. On oublie tout ça, poubelle. Avec l'image suivante, la figure de proue. Charles Darwin. Saviez-vous que sa première étude paraît en 1844? En 1844? The Foundations of the Origin of Species, donc l'origine des espèces. Deux essais, les premiers essais en 42 et 44. Impressionnant! Que ces dates-là, quelque part, voilà, elles suscitent des réactions. Enfin, en tout cas, juste pour dire, on est dans le même temps. D'accord. Où vous voyez, point par point, chacun il lance son missile. Et il y en a qui essayent d'interpréter celui de l'autre. Excusez-moi, c'est une image un peu guerrière, mais très moderne. Hein. On est d'accord? C'est comme ça, vous savez, qu'Israël se protège. Pas des missiles, anti-missiles. Bon. Donc le point suivant, je ne vous fais pas Darwin, hein, la macro-évolution des espèces, etc. On est parti de trois fois rien et on est parti du plus simple, du plus élémentaire, on arrive au plus complexe. Enfin, et Darwin, il y est quoi? La quatrième partie du message des trois anges, dans ce que dit le premier ange, à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, les sources eaux. Si on est le produit de l'évolution, il n'y a plus besoin d'adorer qui que ce soit. Le sabbat, vous oubliez, c'est une invention humaine, on ne sait pas comment, mais bon. Et dernière attaque, c'est la contestation de la proclamation universelle de ce message et de la mission de l'Église adventiste. On dit, pourquoi vous devez prêcher ça? Non, mais attendez, voilà, vous êtes à côté de la plaque. Enfin, on nous reproche ça. Mais non, méconnaissance de l'Évangile éternel. Regardez ce qui est né dans la même période. Le fameux, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du bahaïsme. En 1844, le Bab, dont les restes, les ossements se trouvent dans ce mausolée sur le mont Carmel, à Haïfa, d'accord? En 1844, le Bab fait une prophétie. Il annonce la venue d'un prophète. Bon, ça va lui coûter plus tard, ça va lui coûter la vie, hein, quand même. Mais en 1844, donc, cet homme fait une prophétie, on appelle ça la déclaration du Bab, et c'est, cette déclaration va produire, en quelque sorte, l'avènement d'un prophète qui va s'autoproclamer prophète, le père d'Abd al-Baha. Vous voyez Abd al-Baha sur la gauche, son père, j'ai oublié son nom, mais enfin quelque chose comme ça aussi, son père, en 1163, se déclare prophète et fonde, selon la parole du Bab, prononcée en 1844, et fonde la religion Baha'i. D'ailleurs, Bab vient de Babel. Hein. Babel qui veut dire la porte. Bab, la porte. Et à Babel, il y a eu confusion des langages. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont enseigner? Et le fils du prophète fondateur, Bab Abd al-Baha, est né en 1844. Et lui, il va travailler à l'internationalisation de cette pensée Baha'i. Vous savez quelle est la pensée Baha'i? Alors ça, quand même, je vous le donne parce que je pense que là, vous découvrez un petit peu quand même, avant de conclure. Mais c'est quand même bien de le savoir. La pensée Baha'i, en quelques phrases. Alors oui, le fameux prophète, c'est Baha'Allah. On va être facile à retenir. Les principes de foi Baha'i, qui sont reconnus par l'ONU, hein, les Baha'i, très appréciés d'ailleurs. Alors, l'un de leurs enseignants fondateurs explique que toutes les grandes religions révélées ne diffèrent que par des aspects mineurs de leurs enseignements, qu'elles sont toutes parties intégrantes d'un même plan divin pour l'évolution de l'humanité. Les fondateurs de ces religions, donc monothéistes, sont les manifestations d'un même Dieu. Leurs messagers, que ce soit Abraham, Moïse, Krishna, Zoroastre, Bouddha, Jésus, Mahomet, Baha'u'llah, reçoivent leur inspiration d'une seule et même source et sont envoyés d'époque en époque pour révéler aux hommes les lois et les préceptes nécessaires au progrès du genre humain. Bien sûr, il va falloir les lois les réduire au minimum, hein, vous avez bien compris. Hein. Leurs enseignements sont limités par les besoins et la compréhension des peuples de leur temps. Chaque messager confirme et complète la révélation précédente et Baha'u'llah, bien sûr le leur, le plus récent des messagers divins, là c'est plus Mohammed mais c'est Baha'u'llah, accomplit les révélations précédentes et ouvre un nouveau chapitre des religions monothéistes. En gros, ils veulent réunir toutes les religions monothéistes en une seule. Ça va au-delà même du projet œcuménique lié au monde chrétien. Hein. C'est-à-dire c'est relier entre elles toutes les religions monothéistes et dire finalement c'est la même voie, le même chemin, il n'y a pas de différence et il faut niveler tout ce qui, bien sûr, qui pourrait constituer des obstacles entre ces religions monothéistes. Vous voyez, c'est le départ de l'œcuménisme mais au sens très très large. Hein, très très large. Ça va? Donc vous avez vu, qu'est-ce que je veux montrer par là? C'est que s'il y a eu une telle puissance de feu à cette époque-là, de part et d'autre, c'est parce qu'il y a un réel enjeu. Un réel enjeu là-derrière. Qui porte sur notre avenir éternel. Je pèse mes mots. C'est-à-dire où on se place du côté du vrai, du beau, du bien, du juste que Dieu a défini, de l'amour, si vous préférez, ce que Dieu a défini, où on se place de l'autre côté. Il faut faire un choix. Et on vit à une époque décisive où ce choix doit être fait par vous et par moi. Nos jeunes sont dans ce bain-là, dans cette confusion. Ce n'est pas la Bible qu'on leur enseigne à l'école, évidemment. Donc on est bien content quand ils viennent à l'église, ils entendent autre chose. Mais c'est ça qu'on leur enseigne, qu'on leur présente comme étant la vérité ou les vérités pour notre temps. On est d'accord ? Donc d'un côté, vous avez un enseignement universel, quasi universel, des contre-vérités créées par l'ennemi, et de l'autre côté, vous avez la mission de l'Église adventiste. Alors, sommes-nous à la hauteur? Vous allez dire, c'est peut-être pas, à vue humaine, non, mais c'est Dieu qui se charge de la mission. Notre mission, c'est celle de Dieu, en fait. Nous ne sommes que des porte-voix, nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Et on terminera par ce beau verset que je reprends dans Daniel 10, « Va, Daniel, ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Vous savez dans quel temps nous vivons maintenant. Mais plusieurs, je préfère dire beaucoup, seront purifiés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Blanchis et prouvés. Les uns perdront la vie, ceux qui ne comprendront pas et qui n'accepteront pas ce message. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront et seront sauvés. C'est ça qu'il faut, bien sûr, lire à la fin. Alors, mes amis, je ne peux que, à travers ce message qui certes, contient des aspects prophétiques, historiques, d'interprétation de la Bible. Mais à travers ce message, vous raffermir dans votre foi adventiste. Vous encourager à tenir bon. Les vacances sont devant nous. Faites-en des vacances utiles, studieuses. Lisez, étudiez. Voilà, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et surtout, ancrez-vous dans ce beau message, dans cet évangile éternel qui sauve Je vous rappelle qu'au cœur de l'évangile, il y a Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, hein. Acte 4, verset 12. Donc, c'est bien là que tout se joue. Ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est ce que je vous souhaite, que vous puissiez rester dans la course. Ne pas oublier que, oui, la purification du sanctuaire est une réalité céleste, mais aussi, et pour nous avant tout, une réalité terrestre, parce que l'Esprit de Dieu est parmi nous, alors que le Christ est invisible aujourd'hui. Eh bien, son Esprit est parmi nous pour poursuivre son œuvre et préparer sa seconde venue, mes amis. Et cette seconde venue est proche, vous le savez. Il va se passer quelque chose dans les prochaines décennies, c'est certain. Nous le pressentons tous. Nous, j'inclus dans ce « nous », tous les hommes, pas seulement les chrétiens. Alors, partageons ce message d'espoir et disons que non, la fin, ce n'est pas le néant. Non, il n'y a pas de monde des esprits où nous allons nous réunir avec nos chers et tendres qui nous ont quittés. Non, non, il va y avoir une résurrection des corps. Et à ce moment-là, chacun recevra sa récompense. Persévérons dans la foi, mes amis, restons attachés à notre profession de foi, ranimons notre flamme. Si vous êtes dans les adventistes, vous êtes au bon endroit. Ce n'est pas l'Église qui sauve, mais elle apporte un surcroît de connaissances, de révélations qui, en ces jours de péril, qui sont les derniers, est vraiment nécessaire. Que Dieu nous soit tous en aide. Amen.